À l'IPC et au Bernardin, professeur de philosophie de la nature et philosophie de l'homme. Voilà, et vous allez nous parler de saint Thomas et de son épistémologie à partir du De Magistro.
Merci. Merci beaucoup. Même lorsque nous parvenons à une grande familiarité avec les objets du Moyen-Âge, vous le savez sans doute, ceux-ci conservent toujours une distance quasi infranchissable. Et il n'en va pas autrement avec l'épistémologie thomasienne. Selon son génie propre et dans un style de pensée tout à fait caractéristique du XIIIe siècle, Thomas interroge les conditions de possibilité d'une connaissance qui nous est désormais obscure sous les lumières des sens, des sciences modernes et contemporaines. Plus d'intellect agent, des sens abstraits, de certitudes dans nos épistémologies, et pourtant, malgré de nombreuses incommensurabilités, une comparaison demeure envisageable. Et ce, d'autant plus que si nous prenons les textes stylo en main, nous ne pouvons qu'être frappés par un certain parallélisme entre l'approche thomasienne et les épistémologies que l'on qualifie d'évolutionnaires. Celle d'un Karl Popper, par exemple, ou encore celle d'un Thomas Kuhn. Et si nous nous tenons au fait de certaines approches épistémologiques plus originales, mais fort prometteuse dans le débat contemporain, nous savons déjà que Thomas d'Aquin est l'une des sources de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épistémologie des vertus. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur sentier pour envisager ces éléments de comparaison que de porter notre attention non sur le maître ouvrage de Thomas, La Somme de théologie, mais sur ce qu'on a pris l'habitude d'appeler son De Magistro. Il s'agit en fait de la question 11 des Questiones Disputatae De Veritate, sur la vérité, qui correspondent à ses trois premières années d'enseignement parisien en qualité de maître en théologie. Il avait moins de 30 ans. Je vous propose donc de regarder ce texte du De Magistro dans la perspective de son parallélisme avec l'épistémologie évolutionnaire. Donc vous voyez, ici, nous allons rester dans une approche très, très, très philosophique. Un parallélisme qu'il nous faudra, bien sûr, dans un premier temps, établir, car il ne va pas de soi. Et en guise de conclusion, car nous serons plutôt brefs, nous mettrons en évidence ces vertus épistémiques dont il est question dans l'épistémologie des vertus, c'est-à-dire ces dispositions de ce qu'on appelle un agent épistémique, c'est celui qui connaît, c'est le sujet connaissant si vous préférez, des dispositions qui constituent une garantie de crédibilité. Les vertus épistémiques, ce sont des garanties pour croire quelqu'un. Ce faisant, nous n'ambitionnons pas autre chose qu'une brève introduction à l'épistémologie thomasienne, ou pour parler à la manière de la Cunate, un proemium, c'est-à-dire une vue claire, quoique non détaillée, à la fois de ce qui rend cette épistémologie intéressante, de ce en quoi elle se distingue, et des difficultés qu'elle entend surmonter. Commençons donc par tracer le parallélisme entre l'épistémologie thomasienne et l'épistémologie dite évolutionnaire. Depuis le psychologue Donald Campbell, qui proposa l'expression « une épistémologie est dite évolutionnaire » lorsqu'elle reproduit, d'une manière ou d'une autre, le schéma d'un processus évolutif, c'est-à-dire un devenir naturel. Il y a la manière d'un Popper, pour qui le schéma d'acquisition du savoir, comme vous savez sans doute, est le même de l'amibe à Einstein. C'est une citation. Un schéma constitué de trois termes, avec la phase de problème, puis celle des essais de solution, et enfin la phase de l'élimination. La méthode scientifique et la pensée critique n'en sont toutefois pas moins distinctes du processus naturel, dans la mesure où, nous dit Popper, l'amibe déteste l'erreur et subit l'élimination, alors que dans la démarche critique, nous prenons part activement à l'élimination. Modéliser donc l'épistémologie à partir d'un devenir naturel n'est pas nécessairement la naturaliser. Il y a bien une distinction. Une autre approche évolutionnaire non moins connue est celle de Thomas Kuhn, pour qui, je cite, « l'analogie entre l'évolution des organismes et celle des idées scientifiques est presque parfaite. » On ne développera pas, tout ceci est bien connu. En revanche, il est très intéressant de voir que le De Magistro de Thomas d'Aquin propose lui aussi une analogie entre le devenir naturel et le processus d'acquisition du savoir. Ce texte compare même trois processus. Le devenir naturel, la formation scientifique, mais aussi l'acquisition des vertus, c'est-à-dire la formation de la conscience morale, ce qui correspond pour une part au processus éducatif. Mais la question de Thomas porte sur le statut de l'enseignant. Il s'agit de déterminer quel est exactement son rôle dans l'acquisition du savoir. La question est classique, certes, mais elle est traitée de manière originale, puisque l'auteur s'appuie sur ce qui se passe dans l'ordre de la nature et de l'éducation, après avoir constaté que les positions de ses devanciers concernant la question épistémologique sont toujours en cohérence avec leur positionnement en physique et en éthique. Et donc que tout est lié en raison d'une similitude qu'il faut savoir judicieusement déceler. Ainsi, pour modéliser son épistémologie avec, comme chez nos contemporains, ce qui se produit dans la nature, Thomas se propose de reconstruire, un peu d'une manière analytique d'ailleurs, de reconstruire le débat autour des positions les plus extrêmes. Et il convoque d'abord ceux qui, comme Avicenne, recours pour rendre compte du devenir naturel à ce qu'on appellerait aujourd'hui un dessin intelligent, intelligent design. Et il remarque que les mêmes auteurs recourent également au même type d'explication pour la vertu et pour la science. Ce qui a pour conséquence de nous reconnaître à l'éducateur ou à l'enseignant, qu'une action consistant à écarter les obstacles, à disposer. Mais cela ne constitue pas, aux yeux de Thomas d'Aquin, une véritable causalité. La responsabilité étant alors toute concentrée dans quelques desseins intelligents. À l'opposé, il y a ceux jamais nommés qui estiment que tout est déjà présent dans la matière, et que le devenir ne consiste que dans une manifestation de ce qui est d'abord caché, à la manière peut-être des homéomères d'Anaxagore. On retrouverait donc, selon Thomas, cette position chez ceux qui veulent que l'homme soit moralement bon par nature. Et ce, malgré des comportements qui témoignent plutôt du contraire. Sans doute parce que nul n'est méchant volontairement. Ou encore, chez ceux qui estiment que nous avons en quelque sorte des idées innées et qu'apprendre ne consiste en rien d'autre qu'en une réminiscence. Le débat est donc clair. Pour les uns, tout est déjà présent. Pour les autres, tout est à acquérir. Mais dans les deux cas, le rôle des facteurs environnants est sous-évalué. Et c'est pourquoi Thomas propose une voie intermédiaire, une via media. Il dit l'avoir puisé chez Aristote, mais elle n'en est pas moins originale, puisque nous sommes devant un phénomène d'insertion assez comparable à la croix dorée d'Aix-la-Chapelle, dont parle le grand médiéviste Kurt Flash, pour rendre compte de l'originalité de l'art carolingien, malgré ses nombreux emprunts. Il s'agit d'une voie intermédiaire, car elle admet que ce pourquoi il y a devenir est à la fois présent et absent. Et c'est bien l'apport d'Aristote d'avoir montré au sein des processus naturels que le devenir demeure possible, même si ce pourquoi il y a devenir est absent au point de départ, répondant ainsi à ceux qui disaient que de rien, rien ne devient. Pour Thomas, Aristote est celui qui a sauvé le devenir. De la contradiction, montrant que ce qui est présent au départ l'est, mais d'une présence qui n'est pas celle à laquelle conduit le devenir. Qu'il s'agit d'une présence sans actualité. Mais in potentia solum. Cette potentialité caractéristique de la matière change les données du problème. On ne peut plus, dès lors, se contenter d'explications métaphysiques et donc d'un good design pour rendre compte d'un devenir. Il faut prendre en compte la manière dont la potentialité est réalisée. Ce qui ne peut se faire que par les facteurs environnants. Thomas parle d'agents prochains extrinsèques. Ça veut dire facteurs environnants. Il existe alors une similitude entre le devenir naturel et l'acquisition des vertus morales. Dans la mesure où le processus éducatif part lui aussi de vertus qui préexistent potentiellement, mais cette fois dans les inclinations naturelles qui habitent en nous, nos désirs, nos peurs, nos audaces, nos espoirs, sont des vertus en puissance, sont ceux d'où part le chemin de la formation éducative. D'autre part, l'éducateur est vu comme un agent prochain extrinsèque dont le rôle est de fournir tous les moyens pour une bonne orientation des inclinations naturelles. La vertu n'étant rien d'autre pour Thomas qu'une bonne orientation de nos potentialités. Et dès lors, nous avons tous les éléments pour comprendre l'épistémologie thomasienne. Il faut en effet identifier pour rendre compte de la connaissance la plus aboutie sur un plan philosophique. même théologique pour Thomas. La connaissance la plus aboutie, c'est une connaissance de science. Il a voulu faire de la théologie une science. Il faut, pour en rendre compte, identifier un potentiel, des agents prochains extrinsèques, des facteurs environnants, si vous préférez, et peut-être aussi quelques facteurs plus lointains, car on sait, par ailleurs, que le mouvement chez Aristote dépend, en outre, d'un premier moteur immobile que Thomas n'émite jamais, de façon parfois un peu téméraire, à identifier à Dieu. Mais commençons par le potentiel, celui de l'agent épistémique, le sujet de connaissance. Pour Thomas, le savoir n'est pas un jugement de la volonté, mais de l'intelligence, parce qu'il s'agit d'un acte que l'on peut exprimer au moyen d'un discours énonciatif. Il n'est pas une croyance ou un ensemble de croyances, parce que le jugement de science demeure, comme le disait déjà Platon dans ses définitions, inébranlable. Autrement dit, la vérité d'un jugement est manifestée par la solution des doutes chez Thomas. Mais seulement possible. Et comment ? La question est d'expliquer les raisons de la fermeté d'un jugement en science. Tout dépend du point de départ. Tout dépend du point de départ. Tout se joue au point de départ, Platon disait déjà. Lorsque l'on part d'opinions même raisonnées ou largement admises, on ne peut jamais conclure qu'avec crainte. Cette crainte qui, chez Thomas, prend la forme de l'étonnement et qui surgit du fait qu'il demeure encore possible que nos conclusions soient falsifiées. Pour Thomas, le point de départ du processus de connaissance, de la connaissance la plus aboutie, doit contenir en puissance l'ensemble des conclusions de la science, un peu comme la matière qui en elle-même est en puissance à toute chose. Il n'y avait pas le bing-bang, mais il y avait cette idée que la matière est en puissance à toute chose. Le bon point de départ de la science est qualifié de principe. Le principe de la connaissance, c'est le bon point de départ. Et en raison de sa potentialité à des sciences différentes, il est qualifié d'universel. Quel est donc ce principe universel ? Est-il seulement unique ? Pour sûr, il ne s'agit pas du cogito. Parce que si ce dernier offre une certitude très grande, il n'est pas en capacité de tout dire. Dire, pour Thomas, c'est montrer. Montrer les choses au moyen d'une représentation qui n'appartient qu'à l'intelligence. Dire, c'est montrer ce qui est caché à nos facultés sensorielles, au moyen d'une similitude qui nous met en présence des choses. Et c'est pourquoi il s'agit au sens propre d'une représentation, par laquelle nous disons à nous-mêmes les choses. Le principe que l'on cherche est donc, selon Thomas, ce que l'on conçoit en premier, vous comme moi, nous comme lui, ou comme Platon et Aristote, et qui à la puissance de tout dire. Cette première notion à laquelle il consacra l'un de ses tout premiers ouvrages, il avait 25 ans, le De Ante et Essentia, C'est l'idée de ce qui existe. Ce qui existe en latin, ens. Voilà ce qui est premièrement conçu par l'intelligence et qui donne une première représentation de tout ce dont il peut être question. On est très loin du cogito cartésien qui n'est qu'un exemplaire de ce qui est. Un ens particulier. La caractéristique de cette épistémologie est donc que nos idées primitives n'ont le savoir en puissance que parce qu'elles font abstraction de toute différence, de toute distinction. En concevant ce qui est, on ne distingue toujours pas l'individu de ses propriétés, ou pour le dire dans la langue de l'époque, la substance de ses accidents. Il faudra progressivement apprendre à distinguer les choses, ce qui s'appelle définir. Mais c'est un long et patient travail dont la méthode est présentée aux yeux de Thomas dans les secondes analytiques d'Aristote. L'ens est donc la première idée abstraite. Mais d'autres notions partagent son universalité. C'est le premier principe universel de la connaissance, mais ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Nous comprenons ce qui existe et ce qui n'existe pas, nous ne pouvons pas le comprendre, sauf en le rapportant à ce qui existe. Nous pouvons donc préciser que ce qui existe est un, c'est-à-dire indivisible. Notons au passage que cet homme, cet individu, homme, qui est un individu donc, a une unité, et ça nous est difficile à comprendre, à nous modernes, a une unité qui ne vient pas de l'agent épistémique, de celui qui connaît. Et il en va de même pour tout ce qui existe. Tout ens est un. En lui-même, du fait même qu'il est un, qu'il est ens. En poursuivant l'analyse, il apparaît aussi que l'ens est une chose, c'est-à-dire qu'il possède en lui les éléments qui sont responsables de son existence. Voilà ce que veut dire le mot chose pour Thomas. L'ens, ce qui existe, c'est ça, qui est un individu, possède en lui des éléments qui sont responsables de son existence. Ce que Thomas appelle tout simplement une essence. La chose est donc l'ens en tant qu'il a une essence. C'est le troisième principe, mais en aucun cas le dernier. Car une chose est toujours différente d'autre chose. Et c'est ainsi que toute chose est quelque chose. Mais si ce quelque chose est ce que l'on cherche à définir en posant la question « qu'est-ce que c'est ?», il faut alors ajouter que l'ens est aussi une chose intelligible, même si le plus souvent les choses sont très imparfaitement appréhendées, et que, comme le dit Thomas, nous passons le plus clair de notre temps dans l'erreur. Ce pourquoi nous avons besoin de maîtres. Mais, quoi qu'il en soit, tout nous interroge, et c'est pourquoi l'ens est dit vrai. Si le quatrième principe était le fait d'être quelque chose, le cinquième est celui d'être vrai, la vérité est dans les choses. C'est le fait qu'elles sont intelligibles, qu'elles nous interrogent. Enfin, dans la mesure où tout ce qui existe peut être désiré, tout un de ces bons. À partir de ces notions d'entité, d'unité, de réalité, res, de particularité, quelque chose. De vérité, de bonté, l'intelligence peut en outre formuler eh bien, des axiomes, comme le principe de non-contradiction, ou encore, pour ne donner qu'un exemple dans la réflexion pratique, le principe selon lequel le bien est ce que toute chose désire. Tout le travail de la science sera alors de parvenir à la connaissance des choses dans leur particularité. Vous voyez, le point de départ est très universel, et l'objectif est d'arriver à la connaissance des choses dans leur particularité. Le moyen d'y parvenir est précisément et principalement le syllogisme démonstratif, qui pour Descartes ne fait rien savoir, mais comme vous savez, pour Aristote, est justement ce qui fait savoir. Sur ce point, je me contenterai de deux remarques. La première est difficile à présenter en quelques minutes, car l'idée pré-cartésienne de démonstration est assez éloignée de la nôtre. Démontrer d'Aristote à Descartes exclu signifie exprimer un lien de causalité entre une chose et l'une de ses propriétés. Thomas serait donc d'accord pour dire que sans la possibilité de saisir des liens de causalité, il n'y a pas de jugement apodictique. Certain. Il ne peut pas y avoir de certitude. Si nous sommes dans l'incapacité de saisir des causes, il n'y aurait alors que des croyances, c'est-à-dire des opinions, au sens d'opinion. Ainsi, les présupposés de l'épistémologie thomasienne sont triples. Que les choses dépendent les unes des autres, et c'est la notion d'ordre chez saint Thomas. Il y a une dépendance. Le mot cause signifie ce dont une chose dépend dans son être et dans son devenir. Donc le présupposé, c'est qu'il y a un ordre entre les choses, un lien de dépendance entre elles. Présupposé que nous nous fait sauter. B. Deuxième présupposé, que la causalité ne se réduise pas à la causalité efficiente. Dans le contexte scolastique, elle est beaucoup plus riche. Et enfin, que l'on puisse en avoir connaissance. Parce qu'il pourrait y avoir des causes très différentes de la cause efficiente, mais sans qu'on y ait accès. Voilà les trois principaux présupposés de cette épistémologie. Ces présupposés, il faut le dire, ont longuement été examinés par Thomas lui-même, notamment dans ses commentaires de la physique d'Aristote et de la métaphysique. En aucun cas, on ne peut lui reprocher d'en avoir fait des préjugés. Il a sans cesse réinterrogé les principes de la connaissance jusqu'à la fin de sa carrière. Car pour lui, ces principes doivent toujours être davantage connus que les conclusions. Thomas, c'est l'anti-manuel scolaire. Et c'est en ce sens-là, à mon sens, qu'il est philosophe. En plus, ou en moins, d'être théologien. La seconde remarque, en tout cas c'est celui-ci qui m'intéresse personnellement. La seconde remarque porte sur le fait que l'acteur principal de la connaissance, c'est un point important, est celui qui apprend. Ce n'est pas l'enseignant, ce n'est pas la communauté scientifique. Vous savez que c'est le cas chez Thomas Kuhn. Une communauté scientifique qui existait déjà à son époque de par l'organisation universitaire. Et même si l'enseignant exerce un rôle important, celui-ci n'a jamais le rôle principal, car la science, entendez bien, est toujours un discours pour soi-même. C'est un discours intérieur de l'âme avec elle-même, et pas une disputation où l'on peut toujours tout remettre en question. Quand l'âme s'adresse à elle-même, il y a des vérités qui s'imposent. Remarque Thomas à la suite d'Aristote dans les secondes analytiques, car ça c'est une idée vraiment puisée chez Aristote. Livre 1, chapitre 10, 76b. Au point, c'est bon de le savoir, parce que c'est une belle idée quand même, la science, c'est un discours intérieur de l'âme avec elle-même. Beau ça quand même, pour un païen. Aujourd'hui, le savoir est quelque chose d'extrinsèque. Hein. On est vraiment à l'opposé. Au point où nous en sommes, il devient pertinent, me semble-t-il, de s'interroger sur l'origine d'une telle épistémologie. Il ne suffirait pas de faire référence aux secondes analytiques. Il serait bien dommage d'occulter, comme cela arrive trop souvent, le fait que la méthode scientifique, telle qu'elle est décrite dans les secondes analytiques d'Aristote, est une réflexion sur le discours mathématique. On n'a pas attendu Descartes. D'ailleurs, même l'expression mathésis universalis est chez Aristote. Les mathématiques grecques, que Jean Beaufret qualifie de mathématiques de l'aletheia, par opposition à la mathématique cartésienne, qu'il qualifie de mathématiques de la certitude, constituent un exemple exemplaire, pour parler à la manière de Kuhn, pour la démarche philosophique et même pour la démarche théologique, qui prétendent l'une comme l'autre, chez Thomas, au titre de science. Il n'est donc pas étonnant que les mathématiques aient été pour Thomas un passage obligé dans les études, et ce, d'autant plus qu'il est considéré comme une partie de la philosophie, la partie la plus facile à enseigner. Si cette idée vous intéresse, il faut lire le De Trinitate de saint Thomas, le commentaire du De Trinitate de Boèce par saint Thomas. Si les choses ont changé pour nous, c'est peut-être parce que les choses ont changé en mathématiques. On est passé des mathématiques de l'aletheia aux mathématiques de la certitude. Et si l'épistémologie thomasienne est différente de celle d'Augustin, c'est peut-être parce qu'elle prend modèle sur les mathématiques grâce à des écrits aristotéliciens dont Augustin ne disposait pas, notamment les secondes analytiques et les physiques, où le modèle mathématiques joue un rôle décisif. Je vous propose donc de conclure cette trop rapide présentation en précisant que cette épistémologie entretient, pardon, en précisant le rapport, excusez-moi, que cette épistémologie entretient avec celle d'Augustin. Cela nous permettra d'effleurer le thème des vertus épistémiques. De prime abord, sur un plan strictement épistémologique, tout oppose Thomas et Augustin. Dans leurs démagistraux respectifs, la question est de savoir si un homme peut en enseigner un autre. Et Thomas de répondre oui, alors qu'Augustin s'y était refusé en raison de l'Écriture, qui enseigne que Dieu seul peut être appelé maître. Matthieu 23, 10. Augustin avait alors développé la thèse du maître intérieur, qui est le Christ illuminant tout homme au plus intime de lui-même. Celui-là seul, dit-il, nous apprend, si l'on dit vrai, qui nous a avertis quand il parlait aux oreilles, qu'il habite en nous. Et Augustin d'ajouter, à la fin de son De Magistro, qui serait assez follement curieux pour envoyer son fils, parle pas de fille, apprendre dans une école ce que pense le maître. C'est intéressant, cette idée-là, très intéressante. intéressant, je la relis quand même, elle est très très intéressante, qui serait assez follement curieux pour envoyer son fils apprendre dans une école ce que pense le maître. Les paroles ne peuvent qu'exciter l'homme à s'instruire. Auprès du maître intérieur, elle n'enseigne pas, dit Augustin, parce qu'on ne peut en saisir le sens qu'en comprenant déjà les choses dont elles sont signifiées, le signe. La réponse est donc différente, mais pour autant, Thomas d'Aquin ne voit aucune opposition, seulement une différence légitime de point de vue. Saint Thomas pratique ce qu'on appelle parfois une exposition révérentialis. Je vais m'expliquer, mais d'abord je cite Thomas. Lorsqu'il prouve dans son traité du maître que Dieu seul enseigne, Augustin n'entend pas nier pour autant que l'homme enseigne de l'extérieur. Mais il veut dire que Dieu seul enseigne intérieurement. Le maître dominicain semble prêter à Augustin sa propre pensée. Tout se passe chez lui comme si Augustin, n'ayant rien voulu dire d'autre que la vérité, avait voulu dire ce que Thomas croit lui-même être la vérité. Telle est l'exposition révérentialis. Ne s'agit-il pas d'une faute herméneutique ? En lisant, je crois, l'intégralité du De Magistro thomasien et l'intégralité du corpus augustinien, on peut constater, me semble-t-il, qu'il n'en est rien. Notons, Thomas a un très grand respect pour Augustin. Je crois qu'il est erroné de les opposer, comme pour moi d'ailleurs, il est assez problématique d'opposer Aristote et Platon. Vous savez que c'était la position des néoplatoniciens que de voir un lien entre les deux. Hein. Je crois qu'elle est assez juste, il faudrait qu'on y revienne davantage. Pour Thomas, Augustin avait fait une véritable œuvre de sagesse en comprenant toute chose à la lumière de Dieu. Thomas ne pouvait donc qu'être d'accord, et il dit même pourquoi. Notre raison, en effet, est comme une lumière qui manifeste ce qu'il y a d'intelligible, à l'instar de la lumière naturelle qui manifeste ce qu'il y a de visible pour les yeux. Or, cette lumière, poursuit Thomas, que chacun porte dans sa raison, ne peut venir que de Dieu. Aristote, dans la génération des animaux, l'avait déjà pressenti, en disant de l'intellect qu'il ne pouvait venir de la matière, mais seulement de l'extérieur. Citons encore une fois l'Aquinate. Le fait, écrit-il, que quelque chose puisse être connu avec certitude provient de la lumière de la raison. Divinement infusé au-dedans de nous-mêmes, par laquelle, c'est Thomas cette fois-ci qui parle, Dieu parle en nous, et non pas l'homme qui enseigne de l'extérieur. Mais la position de Thomas est que si Dieu est une cause première indispensable, il n'est qu'une condition à laquelle il faut ajouter d'autres facteurs, ceux dont Augustin avait bien conscience, notamment dans la Doctrina Christiana. Mais outre ces facteurs, dont le rôle est de disposer celui qui se forme, saint Thomas ajoute des facteurs dont le rôle est de l'aider à être lui-même l'acteur de sa propre formation. Il n'est pas simplement un rôle de disposition. Causalité dispositive. Il en est donc pour la connaissance, un peu comme pour la naissance d'un enfant dont les parents sont responsables en tant qu'ils collaborent en procréant à la création même de Dieu. Le point de vue de Thomas est donc double. À la sagesse qui met l'accent sur Dieu, il ajoute un point de vue de science qui complète la sagesse par la prise en compte aussi exhaustive que possible des causes secondes, des facteurs environnants. Et c'est pourquoi il refuse de s'opposer à Augustin et ne se permet que de le compléter en fonction des avancées de la science du XIIIe siècle. on vient de découvrir un certain nombre d'ouvrages, dont les physiques, dont la métaphysique, dont les secondes analytiques. Voilà une science nouvelle, à la lumière de laquelle il faut reprendre toute chose. Peut-être Thomas corrige-t-il certains lecteurs d'Augustin qui n'étaient soucieux que de sagesse et négligeaient la science désormais accessible. Ainsi Thomas nous apparaît comme celui qui a insisté pour dire que Dieu n'est pas le seul responsable de ce qui advient dans l'histoire des hommes. Et cela concerne aussi l'épistémologie. Et pour lui, c'est encore parler de Dieu que de mettre en évidence l'ensemble du dispositif de la providence. La science est toujours chez lui, ordonnée à la sagesse, reprenant à son compte les mots de saint Hilaire, en Détridaté, dans la Trinité. Il dit, il témoigne de lui-même, la tâche principale de ma vie, à laquelle je me sens en conscience, obligé devant Dieu, c'est que toutes mes paroles, tous mes sentiments parlent de lui. Maintenant, du point de vue de l'épistémologie des vertus, qui cherche des garanties, les garanties de nos croyances dans les dispositions de l'agent épistémique, l'attitude de Thomas face à Augustin correspond à ce qu'on pourrait appeler, avec un Roger Privé, la pertinence intellectuelle, un juste milieu entre la dispersion, ou si l'on préfère l'éclectisme, et l'obsession intellectuelle. Elle consiste dans le fait de mettre chaque chose à sa place. J'espère vous avoir montré que si l'épistémologie thomasienne nous est assez étrangère, la distance n'est pas infranchissable. Ce qui est heureux, car les voyages forment la jeunesse.
Merci beaucoup, Emmanuel. Il y a sûrement plein de questions.
Oui,
Charles.
Par rapport à...
Il est philosophe, Charles.
Par rapport à la différence entre croyance et connaissance qui touche les saint Thomas, est-ce que l'évolution, enfin, dans le schéma actuel, dans l'épistémologie, on a l'impression qu'il y a une évolution un peu des connaissances scientifiques, par exemple. Est-ce que cette évolution a du sens au niveau de la connaissance, justement ? Parce que si on parle des premiers principes et qu'on fait tout décrit par démonstration, comment la notion d'évolution a du sens ?
Alors, je dirais deux choses. Quand vous parlez de la notion d'évolution en faisant référence à la science actuelle, aujourd'hui, quelqu'un, j'ai entendu dans le repas, avait évoqué Claudine Tiercelin au Collège de France, dans son Ciment des choses. Elle dit aujourd'hui, la structure de la science, c'est la structure d'un dialogue platonicien de questions-réponses. Donc, c'est un ensemble de croyances. Aujourd'hui, le scientifique a des croyances. Kuhn, l'épistémologue, quand il veut définir, décrire le comportement des scientifiques, utilise la notion de paradigme, et il commence à la décrire en disant c'est un ensemble de croyances. Il y a de la croyance en science. Le mot science implique un certain type de croyance aujourd'hui. C'est toute croyance n'est pas de science, mais la science implique la croyance. Chez Thomas, quand il y a science, il n'y a pas croyance. Et donc, quand vous dites qu'il veut tout déduire et tout ramener à la science sans croyance, non, pas du tout. En réalité, si je devais faire bref, je crois qu'il dit à un moment donné, je ne suis pas familier des commentaires des écritures de Thomas, mais il dit quelqu'un a passé sa vie à chercher la nature d'une mouche et n'a toujours pas trouvé, n'a pas trouvé. Ce que je veux dire, c'est que la seule chose qu'on puisse, c'est étonnant, montrer, dire pour Thomas, c'est ce qui concerne l'homme, ce qui concerne Dieu. Le reste me reste caché. Donc la science, chez Thomas, il y a un progrès, il y a un progrès de la science, mais c'est difficile, c'est une chose extrêmement difficile. Et donc quand on ne sait pas, eh bien on croit. Ici d'une croyance naturelle, c'est ce qu'on appelle la dialectique, l'inquisitio veritatis, si on voulait les expressions thomasiennes. Donc c'est une recherche de la vérité. Dès qu'on ne peut pas avoir de la science, il faut... Et là, je vais ajouter quelque chose de très important. Il faut apporter des raisons de croire. Je suis dans l'ordre philosophique hein, de la connaissance humaine. Je laisse la croyance pour l'instant surnaturelle de côté. Et il reprend quelque chose, d'ailleurs, à son maître Albert, quelque chose de, pour moi, très très important, que les philosophes analytiques apprécieront, mais je crois que tout le monde devrait apprécier. Tout ce qui est avancé sans raison n'est que fiction. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'arguments, mais il y a plusieurs types d'arguments. Et quand on ne peut pas donner un argument qui rend le jugement inébranlable, eh bien, il faut trouver d'autres arguments et quelquefois même recourir eh bien, à la poésie. Ce qu'il fait, y compris dans des œuvres dites de science. Mais il faut une raison.
Ça peut penser à l'Église, quasiment. Aussi.
Mais pas une raison suffisante. Mais il faut quand même un argument. On ne peut pas avancer sans argument.
Ok, c'est pas une raison exhaustive.
Ah non, c'est pas une raison exhaustive, ça peut être une raison imparfaite, ça peut être une raison pour pencher. Mais il faut apporter quand même une raison. Ça peut être une hypothèse, tout simplement, mais il faut apporter une hypothèse. Y a ce besoin qu'il, comment dire, reçoit d'Albert. Ça, c'est le grand projet d'Albert.
Mais c'est beaucoup plus heuristique alors, du coup.
Oui, c'est très heuristique. Okay. Autrement dit, il n'est pas du tout question d'abord de procéder toujours mathématiquement. Ensuite, il y a le sens de la distinction. En chaque question, on va procéder différemment. On va s'adapter en quelque sorte. Les méthodes devront toujours s'adapter à leurs objets, aux objets étudiés. Donc il n'y a pas comme ça une méthode où on apporterait une raison d'un même type de manière univoque. Et donc, puisqu'il y a de la croyance... Je ne sais pas si je développe, je pourrais développer, il ne faut pas que je sois trop technique, c'est ça la difficulté, mais dans l'introduction des secondes analytiques, il développe les différents niveaux justement de croyances, et il va y avoir des croyances qui seront obtenues par des raisons purement rationnelles, mais ça reste des croyances. Il y a des croyances qui sont obtenues par des raisons, mais qui sont aussi en lien avec l'affectivité. Alors quand c'est purement rationnel, ça s'appelle une conviction. Quand l'affectivité est impliquée, ça s'appelle une persuasion. Et quelquefois, eh bien, il y a des croyances qui viennent du fait qu'on se représente dans l'imagination. Et là, c'est plutôt ce qui relève de la littérature, mais qui n'est absolument pas dénigré. Parce que on a besoin d'adapter, d'avoir toutes les raisons possibles. Moi, je suis plutôt spécialiste des physiques, évidemment. Eh bien, de cette question-là, j'ai étudié l'ensemble des commentaires. Le XIIIe siècle, c'est l'avènement de la physique hein, dans l'Occident latin. J'ai étudié l'ensemble des commentaires disponibles, la plupart anonymes. Eh bien, c'est intéressant de voir que même en science, même quand les raisons se veulent fortes, on ne cherche jamais une raison. On cherche toujours toutes les raisons possibles. C'est ça, sa démarche. Et quand il fait le commentaire de la physique, eh bien, il est à 4 ans de mourir. C'est-à-dire, c'est à la fin de sa vie. Il passe sa vie, alors qu'il n'a pas charge d'enseignement. On ne lui a pas demandé de faire ce travail, d'une manière ou d'une autre. Mais je crois qu'il est tout simplement philosophe, ce besoin de comprendre, de manifester la vérité des choses, parce que comprendre, ce qui veut dire commenter à l'époque médiévale, eh bien, c'est faire la louange de Dieu. Cette idée, on l'a par exemple chez un Simplicius, qui montre aussi, ce païen, lui pourtant, que commenter, eh bien, c'est louer Dieu. C'est louer Dieu, c'est faire la louange de Dieu. Il montre ça dans son introduction aux physiques. Et donc, ils ont cette idée. D'ailleurs, le commentaire des physiques, pour vous dire que je ne fais pas une surinterprétation, vous savez comment il se termine, c'est une citation, j'ai oublié la référence, je suis désolé ici, de saint Paul. Peut-être que ce n'est pas lui qui a écrit, mais en tout cas, c'est ainsi se termine la considération de toutes les choses communes de la nature dans le premier principe qui est Dieu au-dessus de toute chose, supra omnes, in secula seculorum, amen. Ça se termine par une louange, toujours chez saint Thomas. Donc voilà pourquoi il cherche à comprendre. C'est pas parce que par rationalisme, voyez, ça serait un contresens. C'est parce que c'est un moyen humain, j'allais dire, les oiseaux chantent pour louer Dieu, et bien l'homme comprend pour louer Dieu aussi. En tout cas, c'est, me semble-t-il, dans cette perspective que Thomas envisage des choses. Donc il y a la place pour une évolution, pour une histoire des idées. Bien sûr. D'ailleurs, il y a des petits passages où il raconte cette histoire pour ses prédécesseurs.
Michael, philosophe aussi.
Qui était lié à une surprise, en fait, vous avez dit qu'il y a une connaissance de l'individuel.
J'ai pas dit d'individuel, justement.
D'accord, bah, il faut ça peut-être éliminer la question. J'ai noté un peu vite, mais parce que chez Aristote, on n'a de connaissance que du général.
Voilà. Une essence que de l'universel. Le singulier est connu aussi, mais par une sorte de réflexion. C'est-à-dire que, en réalité, je vais vous expliquer. C'est très simple. C'est pas l'intellect qui comprend, c'est pas les sens qui voient, c'est pas nos yeux qui voient, c'est l'homme qui voit avec ses yeux et qui comprend avec son intelligence. Eh bien, je sais pas, on va faire une petite expérience de les comprendre. Si je vous demande de regarder quelque chose et de me le décrire, eh bien, dans votre description, il y aura toujours plus que ce que vous voyez. On ne peut jamais, dans une description, simplement apporter les éléments que l'on voit. Il y a toujours plus dans une description. Ben, ce plus vient en partie de l'intelligence, pas seulement, mais en partie de l'intelligence, et parce que c'est l'homme qui connaît, c'est le sujet qui connaît, par son intelligence, par ses sens, et il va au réel, eh bien, de toute son âme, comme aurait dit Platon. Et c'est de cette manière-là qu'il va pouvoir rejoindre le singulier. J'ajoute une chose, si vous voulez, chez saint Thomas, il a repris au philosophe arabe le concept de cogitative, cogitatio, et c'est par la cogitative qu'on est capable eh bien, de faire ce lien entre les sens, la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle. Concept qu'il développe dans son commentaire du De Anima.
Il y a un passage, alors je ne sais plus où c'est, malheureusement. C'est vraiment, je ne sais plus où, moi. Entre la question 93, la seconde, mais je ne suis pas sûr du tout. Où il dit que nos facultés sensibles, parce qu'elles sont possédées, pour les hommes, hein, les animaux aussi, une connaissance sensible, mais comme pour les hommes, ces facultés sensibles sont exercées par un être intelligent, elles sont comme surélevées au-dessus d'elles-mêmes par la spiritualité de l'âme humaine. Ce que je trouve hyper beau, en fait. Il y a quelque chose, autrement dit, nous ne... c'est pas Descartes, on peut pas diviser comme ça par une limite étanche coréale. Enfin, il y a vraiment quelque chose, il y a un usage intellectuel et spirituel de nos sens. Alors nos sens nous permettent de connaître le particulier, mais même si on n'a pas toujours les concepts pour le dire, on faudrait peut-être... Ouais. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut chercher le côté de la poésie, quoi. C'est pas... plus que peut-être de la philo pour accéder à cette connaissance du particulier, mais on a déjà un petit peu de ça chez... C'est aussi pour ça qu'on se tient debout, d'ailleurs. Même tout ce qui est en nous est animal, et comme déjà surélevé par notre spiritualité. Nous mangeons d'une manière humaine, qui dépasse la manière animale de manger. Nous connaissons par nos sens d'une manière humaine, donc spirituelle. Même pour Thomas, c'est même important mystiquement, parce que je crois que pour Thomas, alors là on dépasse l'optique philosophique d'Emmanuel, mais Thomas il se pose la question, comment se fait-il que quand on lit un évangile, qui est un récit, on puisse faire une expérience mystique, une expérience du Christ, une expérience de Dieu, ça passe par nos sens aussi, cette histoire-là. Ça montre presque déjà Saint-Ignace, en fait, de Loyola, hein, d'une certaine manière, ça reste les sens spirituels. Ça a été très développé par Bonaventure, mais on a
Et l'intelligence elle-même est marquée par la sensibilité. C'est pas une intelligence angélique, justement. Elle est aussi dite rationnelle à cause de la sensibilité.
Il y a de la place encore pour une question de 5 secondes. Finalement, qu'est-ce que Dieu vous fait ? Qu'est-ce que Dieu ?
Oui.
Merci
pour votre exposé. J'imagine j'ai une petite question, alors je ne sais pas, peut-être que ça va échapper, mais peut-être que vous en avez pas parlé dans votre exposé. Mais je voulais savoir s'il y avait des contenus, en fait, de connaissances, selon vous, qui peuvent être enseignés, dont l'enseignement serait privilégié parce qu'il favoriserait l'apprentissage des vertus épistémiques dont vous avez parlé.
Attends, j'ai pas bien compris. C'est les contenus de connaissances qui favoriseraient.
Oui, c'est savoir si jamais, en fait, s'il y a des contenus, mais des contenus en fait, contenus qui favoriseraient le développement des vertus épistémiques et pas seulement l'apprentissage d'une bonne manière de penser, pas seulement l'apprentissage des vertus en elles-mêmes. Est-ce que selon vous, vous pensez qu'il y a chez Thomas, il y a des contenus de connaissances qu'il faut commencer par enseigner.
Bien sûr,
par exemple. L'esprit.
Oui, c'est vrai.
Parce que si j'ai bien compris, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de vertus qui garantissent le bon fonctionnement de cette entreprise.
Donc, ça, il le développe notamment dans son commentaire du Détritaté de Boès. Hein, c'est consacré à ça, cette question-là. Et l'ordre qu'il donne, effectivement, ce sont d'abord les mathématiques. Enfin, il y a d'abord avant les mathématiques, la logique, les mathématiques, et ensuite, tout ce qui est l'ordre de la compréhension de la nature, ce qu'on appellerait donc la physique, puis ensuite, la compréhension de ce qui peut exister, ce qui pourrait exister sans matière, qu'on appelle, ce qu'il appelle lui aussi la métaphysique ou ce qu'on appelle la philosophie première. Dans l'ordre de la philosophie, voilà un ordre qu'il donne. Ce qui est sûr, c'est que, si vous me permettez de développer ce point-là, il y a un sermon, je crois que c'est le sermon du quatrième dimanche après l'Épiphanie. C'est un sermon extraordinaire, un sermon universitaire, où il donne un peu son secret aux étudiants, le secret de l'étude, de l'apprentissage. Et il donne des conseils, 4 conseils. Alors, ce n'est pas par rapport au contenu en tant que tel. Hein, il donne d'abord le conseil de l'écoute. Premier conseil, de l'écoute. Je ne vais pas développer, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais l'une des raisons pour lesquelles il faut écouter, c'est ce besoin de recevoir. Il dit qu'il ne faut pas écouter une seule personne, il faut en écouter plusieurs, parce qu'une seule ne suffit pas. Mais il y a un ordre. Pour Thomas, il faut commencer par une seule, et puis ensuite aller voir d'autres. Pourquoi ? Parce que pour Thomas, quand on écoute, la fonction de l'auditeur, c'est de juger. Ça, je crois que c'est très juste. Moi, je sais que je le dis souvent à mes étudiants. N'écoutez jamais sans juger ce que vous entendez. Votre jugement, le niveau de votre année, mais jugez. Vous n'êtes pas là pour enregistrer, simplement prendre des notes. Il faut juger. J'ajouterai avec raison, de manière raisonnable, mais juger. Juger ce qu'on entend. Première chose, c'est qui fait grandir en sagesse. Sa problématique, c'est comment est-ce qu'on grandit en sagesse. Et alors, deuxième conseil qu'il donne, c'est en fait de... je suis en train d'oublier... Ah oui, c'est ça. C'est pas cette fois-ci un contenu de connaissance, mais c'est le désir. En fait, pour lui, on grandit en sagesse par le désir. Il faut avoir un grand désir. Il prend une métaphore. Il dit que certains courent le monde entier pour avoir de l'argent, des richesses. Il faut que notre désir soit encore plus grand de sagesse. Bon, ce désir de sagesse, ce désir de vérité, vous avez entendu, au sens de connaître les choses, au sens d'entendre cette parole de Dieu, en quelque sorte, au-dedans de nous-mêmes. Ce grand désir, deuxième condition qu'il donne, en quelque sorte, plus qu'un simple ordre de contenu, un peu la manière de Descartes, en quelque sorte. Et puis, en troisième, vient l'idée magnifique qu'il dit, on a tous fait l'expérience, qu'on ne comprend jamais mieux que ce qu'on a soi-même enseigné, communiqué à d'autres. C'est beau, ça, de réalisme, j'allais dire. Que si on veut comprendre, moi je sais, c'est quand j'étais étudiant déjà, dès que je comprenais quelque chose, mais j'en parlais à tout le monde. Je continue d'ailleurs. Voyez, ce besoin d'en parler. Moi je crois que si on n'a pas compris, si on n'en parle pas, c'est le signe qu'on n'a bien souvent pas vraiment compris. Profondément, j'entends. Traiter de l'information, ça c'est pas difficile. Mais comprendre. Et alors, ensuite, troisième conseil, c'est le plus important qu'il donne, c'est le fait de ce qu'il appelle, parce qu'il médite sur la Vierge Marie, qui gardait toutes choses en son cœur, c'est la méditation. Il faut qu'elle soit féconde, parce que son fruit, c'est la mémoire. On entend trop de choses qu'on ne retient pas. Vous savez qu'on dit, je ne sais pas, ça fait partie de... que Thomas avait une mémoire prodigieuse et retenait tout ce qu'il entendait. En tout cas, si ce n'est pas tout, c'est beaucoup. Et donc, la méditation, c'est-à-dire revenir, repenser intérieurement, elle doit être féconde, donc pour mémoriser. Elle doit être totale, Marie méditait toutes choses en son cœur, et elle doit être, j'en oublie un dernier critère de cette fécondité, tant pis. En tout cas, la méditation, voilà ce qui fait grandir. Cette méditation, c'est ça, hein, c'est pas simplement entendre extérieurement, traiter de l'information, mais y revenir, y repenser. Et là, quand il parle pas simplement pour des données de foi, de théologique, il parle aussi pour des réflexions, on va dire philosophiques, ordinaires, je dirais même aussi, puisqu'il est question de Marie qui, rappelons-nous, gardait toutes choses en son cœur.
Encore merci.
Merci.
Eh bien, on est fiers d'avoir saint Thomas comme patron des talents, hein. Faisait tous comme lui. C'est trop beau. Bon, allez. Bah, Emmanuel, je ne sais pas si vous êtes pressé, nous on dit les copies, je suis désolé. Allez, quoi. J'ai une question. Oui, bien sûr. Je crois que vous avez un moment. Aïe. Quand vous faites, vous avez une voiture, là.
Non, c'est parti.
Alors, je suis désolé, je
ne pas vu. Non, c'est bien sûr, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Voilà. Thank you.